Alberto revint vite avec une tasse de café et un Coca-Cola. Pendant ce temps, Sophie commençait à prendre goût à la vie de café. Elle n'était finalement pas si convaincue que ça de la superficialité des conversations aux autres tables. Alberto posa la bouteille de coca sur la table avec un petit bruit sec. Plusieurs personnes levèrent la tête. « Nous voilà bientôt au terme de notre route », déclara-t-il. « Est-ce que tu veux dire que l'histoire de la philosophie s'arrête avec Sartre et l'existentialisme ?»« Non, ce serait un peu exagéré. Les thèses existentialistes ont exercé une énorme influence dans le monde entier. » Comme nous l'avons vu, nous pouvons trouver des analogies chez Kierkegaard ou même Socrate. Mais le XXe siècle a aussi vu s'épanouir d'autres courants philosophiques dont nous avons déjà parlé. Lesquels, par exemple? Il y a ainsi le néotomisme, qui reprend les thèses de saint Thomas d'Aquin. Quant à la philosophie analytique ou l'empirisme logique, ça remonte à Hume et à l'empirisme britannique, mais aussi à la logique d'Aristote. Sans oublier, bien entendu, ce qu'on a appelé le néo-marxisme et ses courants dérivés. Nous avons déjà parlé sinon du néo-darwinisme et souligné l'importance capitale de la psychanalyse. Je comprends. Il faut cependant s'arrêter un instant sur un dernier mouvement, le matérialisme, qui lui aussi est profondément ancré dans l'histoire de la philosophie. La science moderne doit beaucoup aux travaux des présocratiques. On est par exemple toujours à la recherche de cette fameuse particule élémentaire qui serait à l'origine de toute la matière. Personne n'est encore aujourd'hui en mesure d'expliquer véritablement ce qu'est la matière. La science contemporaine, prenons la physique nucléaire ou la chimie biologique, est si fascinante qu'elle fait partie intégrante de la vie de beaucoup de gens. Il y a donc un amalgame entre les théories anciennes et les nouvelles? On peut dire ça comme ça, oui. Les questions que je t'ai posées au début du cours restent sans réponse. Sartre avait raison d'affirmer que les problèmes existentiels ne pouvaient pas se régler une bonne fois pour toutes. Une question philosophique est par définition une chose à laquelle chaque génération, voire chaque personne, est et restera confrontée. Voilà qui n'est pas spécialement réconfortant. Je ne suis pas d'accord avec toi. N'est-ce pas en se posant ce genre de questions que nous sentons que nous sommes en vie? Et n'oublions pas que c'est en cherchant à répondre à des questions insolubles que l'homme trouve finalement des réponses précises et définitives à toutes sortes d'autres problèmes. Que ce soit la science, la recherche ou la technique, tout découle de la réflexion philosophique. N'est-ce pas au fond l'étonnement de l'homme devant l'univers qui le poussa à marcher sur la Lune? Oui, c'est vrai. Lorsque l'astronaute Neil Armstrong posa le pied sur la Lune, il déclara « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. » C'était une façon d'englober tous les hommes qui l'avaient précédé et, d'une certaine manière, lui avait permis de poser son pied sur la Lune. Le mérite n'en revenait pas à lui tout seul. Bien sûr que non. Notre époque contemporaine doit faire face à de nouveaux problèmes. Tout d'abord, les grands problèmes d'environnement. C'est pourquoi le « courant écologique » de la philosophie a une telle importance au XXe siècle. De nombreux philosophes tirent la sonnette d'alarme en montrant que la civilisation occidentale est fondamentalement sur une mauvaise voie et va à l'encontre de ce que notre planète peut supporter. Ils essaient d'aller au-delà des propositions concrètes pour limiter la pollution et les catastrophes écologiques. Notre mode de pensée occidental est malade, affirme-t-il. Ils ont raison, à mon avis. Les philosophes écologistes ont par exemple problématisé la pensée même de progrès. À la base, il y a l'idée que l'homme est supérieur, qu'il est le maître de la nature. Cette pensée se révèle extrêmement dangereuse pour la survie de la planète. Ça me rend malade d'y penser. Beaucoup de philosophes se sont appuyés sur les pensées et les idées d'autres cultures pour étayer leurs critiques, en se référant à la culture indienne, par exemple. Ils ont aussi étudié les pensées et les coutumes des peuples traditionnels et des peuplades dites primitives, comme les Indiens, pour trouver la trace de ce que nous avons perdu. Je comprends. Au sein même des milieux scientifiques, des voix de chercheurs se sont élevées pour dire que la démarche scientifique se trouve confrontée à un changement de paradigme. C'est-à-dire que les chercheurs remettent en cause de manière fondamentale le mode de pensée scientifique. Dans plusieurs domaines, cette réflexion a déjà porté ses fruits. Citons par exemple l'émergence de mouvements alternatifs qui privilégient une approche globale des problèmes et essaient de créer un autre mode de vie. Ça, c'est plutôt positif, non? Malheureusement, l'homme est ainsi fait que dès qu'il s'intéresse à quelque chose, cela donne le meilleur comme le pire. Certains annoncent que nous sommes entrés dans une nouvelle ère appelée New Age. Mais tout ce qui est neuf n'est pas forcément intéressant. Comme tout ce qui est vieux n'est pas bon à jeter. C'est, entre autres, une des raisons pour lesquelles je t'ai donné ce cours de philosophie. Tu possèdes enfin l'arrière-plan historique nécessaire pour te diriger dans la vie. C'était une charmante intention de ta part. Je crois que tu trouveras que beaucoup de choses estampillées « New Age » sont des attrape-nigauds. Nous avons en effet été envahis ces dernières années par ce qu'on pourrait appeler « la nouvelle religiosité ». Le nouvel occultisme, ou encore la superstition moderne. C'est devenu une véritable industrie. Dès que le christianisme a baissé dans les sondages, ces prétendues doctrines ont poussé comme des champignons en prétendant offrir aux gens un nouvel art de vivre. Quoi, par exemple? La liste est si longue que je ne sais pas par quoi commencer. Ce n'est d'ailleurs pas facile de décrire sa propre époque. On manque toujours de recul. Allez! Si on faisait un tour en ville, j'aimerais bien te montrer quelque chose. Sophie haussa les épaules. Je ne peux pas rester trop longtemps. Tu n'as pas oublié la fête au jardin demain, j'espère. Bien sûr que non. C'est là qu'il se produira quelque chose de merveilleux. Il faut juste que nous finissions le cours de philosophie de Hilde. Le major n'a pas pensé au-delà. Et c'est là que nous avons une chance de reprendre le dessus. Il souleva à nouveau la bouteille de Coca-Cola qui était vide à présent et la reposa d'un geste déterminé sur la table. Ils sortirent et firent quelques pas. La rue grouillait de monde comme une fourmilière débordante d'activité. Sophie était curieuse de savoir ce qu'Alberto tenait tellement à lui montrer. Ils passèrent devant un grand magasin spécialisé dans les chaînes IFI, les téléviseurs, magnétoscopes, antennes paraboliques, téléphones portables, ordinateurs et autres télécopieurs. « Tu as devant toi, Sophie, tout le XXe siècle », commenta Alberto en montrant du doigt la vitrine. « Le monde a pour ainsi dire explosé à partir de la Renaissance. Dès l'époque des grandes découvertes, les Européens commencèrent à voyager dans le monde entier. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit. C'est en quelque sorte une explosion dans le sens opposé. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que le monde entier est pris dans les filets d'un gigantesque réseau de communication. Il n'y a pas si longtemps que ça, les philosophes devaient voyager plusieurs jours à cheval et en voiture de poste pour se déplacer ou rencontrer d'autres penseurs. De nos jours, il nous suffit d'appuyer sur une touche d'ordinateur pour avoir immédiatement la somme des connaissances humaines sur son écran. C'est quand même assez fabuleux quand on y pense. Ça fait presque un peu peur. Toute la question est de savoir si l'histoire s'achemine vers sa fin ou si, au contraire, nous sommes à l'orée d'une toute nouvelle époque. Nous ne sommes plus seulement les citoyens d'une ville ou d'un seul État. Nous vivons à l'échelle planétaire.
C'est vrai.
Le développement technique, il suffit de penser à l'évolution des moyens de communication, a connu un essor plus important ces 30 ou 40 dernières années qu'au cours de toute l'histoire qui a précédé. Et ce n'est peut-être qu'un début.
C'est ça que tu voulais me montrer?
Non, viens, c'est de l'autre côté de l'église. Au moment où il s'apprêtait à partir, des soldats en uniforme des forces de l'ONU apparurent sur un écran de télévision.
« Oh, regarde !»
s'écria Sophie. La caméra filmait à présent un soldat en gros plan. Il avait presque la même barbe noire qu'Alberto. Il brandit soudain une pancarte sur laquelle était écrit « Rentrerai bientôt, Hilde ». Il fit signe de la main et disparut. Oh, quel charlatan, celui-là!
C'était le major?
Je ne veux même pas répondre. Ils traversèrent le parc devant l'église et débouchèrent sur une large avenue. Alberto faisait visiblement la tête, mais il montra du doigt une grande librairie. Elle s'appelait Libris et était la plus importante de la ville.
« C'est là ? »
Entrons. Une fois à l'intérieur, Alberto indiqua le mur où se trouvait le plus de livres. Il se divisait en trois rayons. New Age, mouvement alternatif et mystique. Les titres étaient aguicheurs. Y a-t-il une vie après la mort? Les secrets du spiritisme? Le tarot? Les ovnis? Guérir? Le retour des dieux? La vie antérieure? Qu'est-ce que l'astrologie? Etc. Il y en avait des centaines comme ça. Sur une étagère, en dessous de ses rayons, on voyait des piles entières de ces mêmes livres. Voilà notre 20e siècle, c'est aussi ça. Ceci est le temple de notre temps.
Tu ne crois pas à ce genre de choses?
Il y a en tout cas beaucoup de charlatanisme là-dedans, mais ça se vend aussi bien que la pornographie. Au fond, ça revient presque au même. On leur raconte exactement ce qui excite leur esprit. Mais il y a autant de liens entre la vraie philosophie et ce genre de livre qu'entre le vrai amour et la pornographie.
Tu ne crois pas que tu exagères un peu?
Allez, viens, on va s'asseoir dans le parc. Ils sortirent de la librairie et trouvèrent un banc libre devant l'église. Les pigeons volaient sous les arbres. Parmi eux, on pouvait apercevoir aussi un ou deux moineaux tout affairés. Cela s'appelle la parapsychologie, commença-t-il. On peut aussi dire télépathie, clairvoyance, don de voyance ou psychokinésie, ou encore spiritisme, astrologie, science des ovnis. Les chouchous ont toujours plusieurs noms.
Mais dis-moi, tu penses vraiment que tout ça, ce n'est que de la blague?
Il serait indigne d'un vrai philosophe de tout mettre sur le même plan. Mais d'après moi, tous ces grands sujets ne font qu'esquisser un paysage qui n'existe pas. C'est en tout cas truffé de ces fœtus de l'imagination que Hume aurait jeté au feu. Dans la plupart de ses livres, on ne trouve au départ aucune expérience réelle.
Alors comment expliques-tu qu'on écrive tant de livres sur le sujet?
Parce que ça rapporte de l'argent. C'est ce que les gens ont envie de lire.
Et pourquoi, à ton avis?
Il est clair qu'ils ont la nostalgie d'une forme de mystique, de quelque chose qui serait différent et qui leur permette d'échapper à la dure réalité de leur quotidien. Mais ils cherchent midi à 14h.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Nous avons été projetés au cœur d'une merveilleuse aventure. À nos pieds se déroule au fur et à mesure une œuvre d'art. Et cela en plein jour, Sophie. N'est-ce pas incroyable?
Si.
Quel besoin aurions-nous d'aller voir des diseuses de bonne aventure? Ou de fréquenter les coulisses de l'université pour faire des expériences passionnantes ou limites?
Tu penses que ceux qui écrivent la plupart des livres qu'on a vus ne sont que des charlatans et des menteurs?
Non, je n'ai pas dit ça. Mais ici encore, nous avons affaire à un système darwiniste.
Explique-toi.
Imagine tout ce qui se passe au cours d'une seule journée. Tu peux même te limiter à un jour de ta propre vie. Imagine tout ce que tu vois et qui t'arrive cette journée-là.
Oui, et alors?
Il peut aussi se produire de drôles de coïncidences. Tu entres par exemple dans une boutique et tu achètes quelque chose à 28 couronnes. Un peu plus tard, Yoron te rend exactement 28 couronnes qu'elle t'avait empruntées un jour. Puis vous allez toutes les deux au cinéma et ton siège porte le numéro 28.
Oui, ce serait vraiment une drôle de coïncidence.
Une coïncidence, certes, mais le problème est que les gens collectionnent ce genre de coïncidence. Ils collectionnent toutes les expériences mystiques ou inexplicables. Quand on réunit dans un livre ce type d'expériences tirées de la vie de milliards d'hommes, cela peut donner l'illusion que l'on détient enfin des preuves très convaincantes. On a même l'impression qu'on en découvre de plus en plus. Mais c'est comme si on jouait à une loterie où seuls apparaîtraient les numéros gagnants.
Il existe pourtant des gens qui ont le don de voyance, des médiums qui font tout le temps ce genre d'expérience.
Bien sûr que oui. Mais les charlatans mis à part, nous pouvons trouver une explication relativement plausible pour tous ces phénomènes de type mystique.
Ah oui?
Tu te rappelles que nous avons parlé de la théorie de l'inconscient chez Freud?
Tu fais exprès de croire que j'oublie tout ou quoi?
Freud a montré que nous pouvons jouer le rôle d'un médium vis-à-vis de notre propre inconscient. Nous pouvons nous surprendre à penser ou faire des choses sans trop bien comprendre pourquoi.
La raison en est que nous avons accumulé en nous infiniment plus de connaissances, de pensées et d'expériences que celles dont nous sommes conscients. D'accord, mais qu'est-ce que ça change?
Il arrive que des gens marchent et parlent dans leur sommeil. On pourrait appeler ça une sorte d'automatisme mental. Sous hypnose également, les gens peuvent dire et faire des choses d'elles-mêmes. Tu peux aussi songer à l'écriture automatique des surréalistes. C'était pour eux une façon d'être leur propre médium et de faire parler leur inconscient. Je m'en souviens. À intervalles réguliers, on a assisté au XXe siècle à différents éveils spirituels. L'idée est qu'un médium peut entrer en contact avec un défunt. Soit en parlant avec la voix du mort, soit en faisant appel à l'écriture automatique, le médium capte le message de quelqu'un qui a vécu il y a des siècles. Certains se sont fondés là-dessus pour affirmer qu'il existe une vie après la mort, ou encore que l'homme vit plusieurs fois.
Je comprends.
Je ne dis pas que ces médiums ont été des imposteurs. Certains d'entre eux sont de bonne foi. Mais s'ils ont joué le rôle de médium, c'est vis-à-vis de leur propre inconscient. Plusieurs expériences ont été faites qui ont clairement montré qu'en état second, les médiums font preuve de connaissances et de dons dont les autres et eux-mêmes ignorent l'origine. Une femme, ne connaissant pas un traître mot d'hébreu, par exemple, a transmis un message dans cette langue. Elle a donc dû avoir une vie antérieure, Sophie. Ou alors, avoir été au contact d'un esprit défunt. Et quelle est ton opinion? On apprit qu'elle avait une nourrice juive quand elle était toute petite.
Oh!
Tu es déçu? Tu devrais au contraire t'émerveiller de la capacité qu'ont certaines personnes d'emmagasiner dans l'inconscient des connaissances si précoces.
Je vois ton point de vue.
Beaucoup de petites coïncidences dans la vie de tous les jours peuvent s'expliquer grâce à la théorie freudienne de l'inconscient. Si par exemple, je reçois un coup de téléphone d'un vieux camarade que j'ai perdu de vue et que j'étais justement en train de chercher son numéro, ça me donne des frissons. L'explication peut tout simplement être que nous avons tous les deux entendu une vieille chanson à la radio qui nous a rappelé le bon vieux temps. Tout le problème, c'est que ce lien caché n'est pas conscient. Donc, c'est soit du charlatanisme, soit une sorte de loterie où l'on gagne à tous les coups, soit encore un coup de ce fameux inconscient. Il vaut mieux en tout cas aborder ce genre de livre avec la plus grande réserve, surtout quand on est philosophe. Il existe en Angleterre un club spécial pour les sceptiques. Il y a plusieurs années de cela, ils ont lancé un grand concours avec une grosse somme d'argent pour le premier qui parviendrait à leur montrer un phénomène tant soit peu surnaturel. Ils ne demandaient pas de grands miracles. Un simple exemple de transmission de pensée leur aurait suffi. Ils attendent toujours.
Je vois.
D'autre part, il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore. Peut-être que nous ne connaissons pas toutes les lois naturelles. Au siècle dernier, des phénomènes comme le magnétisme ou l'électricité passaient pour une forme de magie. Je suis prêt à parier que mon arrière-grand-mère ouvrirait des yeux grands comme des toupies si je lui parlais de la télévision ou des ordinateurs.
Tu ne crois donc à rien de surnaturel?
Nous en avons déjà parlé. L'expression même de « surnaturel » est un peu bizarre. Non, j'ai la conviction qu'il n'existe qu'une nature. Mais elle est en revanche tout à fait étonnante.
Et tous ces phénomènes étranges dont parlent ces livres, qu'est-ce que tu en fais?
Tous les philosophes dignes de ce nom se doivent de rester vigilants. Même si nous n'avons encore jamais vu de corbeau blanc, nous continuerons d'aller à sa recherche. Et un jour, un sceptique de mon espèce sera peut-être bien obligé d'accepter un phénomène auquel il n'avait jusqu'alors jamais cru. Si je n'avais pas laissé cette possibilité ouverte, j'aurais alors été un dogmatique, et donc pas un vrai philosophe. Après avoir échangé ces mots, Alberto et Sophie restèrent silencieux sur le banc. Les pigeons tendaient leur cou et roucoulaient à leurs pieds, effrayés seulement par un vélo ou un geste brusque.
Il va falloir que je rentre préparer la fête, finit par dire Sophie.
Mais juste avant de nous quitter, j'aimerais bien te montrer un de ces corbeaux blancs. Ils sont parfois beaucoup plus près qu'on ne pense. Il se leva et fit signe à Sophie qu'il devait retourner à la librairie de tout à l'heure. Cette fois-ci,
ils se contentèrent de passer devant le rayon des sciences occultes. Alberto s'arrêta devant une minuscule étagère au fin fond du magasin. Au-dessus, il y avait une toute petite pancarte qui indiquait « Philosophie ». Alberto montra du doigt un certain livre et quelle ne fut pas la surprise de Sophie en découvrant son titre. « Le monde de Sophie ». « Veux-tu que je te l'achète ?»«
Je ne sais pas encore si j'en ai le courage. »
Quelques instants plus tard, elle reprenait le chemin de sa maison, le livre dans une main, les courses pour la fête dans l'autre.